Ben, d'une part, donc, je suis journaliste de formation, j'ai fait une école de journalisme, j'ai eu ma carte de presse pendant longtemps, j'ai travaillé à France Inter pendant assez longtemps. Et c'est vrai qu'à une époque, j'ai été installé dans le sud, à Aix-en-Provence, où je faisais des correspondances pour divers médias qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des permanents dans le sud. Mais de toute façon, mon objectif était la bande dessinée depuis le départ. Ma vraie passion est la bande dessinée. Et le journalisme était une façon de me rapprocher de la bande dessinée, de la création, dans le sens où c'était de l'écriture. J'ai beaucoup appris à l'école de journalisme, justement, des choses qui me servent encore aujourd'hui dans mon métier de scénariste, ne serait-ce qu'en termes d'écriture, d'efficacité d'écriture, la chasse à l'adverbe, des petites choses comme ça. Et par contre, tout en continuant à être journaliste, à un moment donné, à France Inter, je suis passé de côté production où j'ai écrit des dramatiques radiophoniques. Donc là, j'étais dans la création, le travail d'auteur. Et je présentais à l'époque avec mon camarade Paul Glaudel, que je connaissais déjà depuis le début des années 80, à Aix. On présentait des projets à droite à gauche dans toutes les maisons d'édition. On se faisait refuser régulièrement. Et un beau jour, on a fini par avoir un premier projet accepté chez Alpen, en même temps que des histoires complètes dans le magazine Circus que publiait Jacques Glénat à l'époque. Et de là, les choses se sont enchaînées assez rapidement, puisque quand avec Alpen la collaboration a cessé, on a fait connaissance d'un jeune libraire de Toulon qui démarrait, qui s'appelait Mourad Boudjelal. On lui a proposé une série qui s'appelait Les Maîtres Cartographes, une série de fantasy. Et là, l'aventure a vraiment démarré à ce moment-là.
Alors une rencontre qui a été très importante pour toi, c'est la rencontre justement avec Paul Claudel. Comment s'est fait un petit peu cette rencontre ?
Paul, on s'est connu en 81, l'année où je suis arrivé à la fac d'Aix. On s'est connu à travers un ami commun qui était, qui est toujours d'ailleurs, un écrivain de science-fiction, Claude Eken. Et Claude connaissait Paul, il travaillait avec lui, d'ailleurs il lui écrivait des petits scénarios pour des fanzines. Moi je connaissais Claude comme libraire et puis après comme ami, il travaillait au cahier de la BD, c'était quelqu'un dont on était tout gamin, c'était un vieux de 23 ans quand on avait 18. Donc on formait une petite bande à Aix dans laquelle il y avait aussi Richard Desnolan, le scénariste qui est là aujourd'hui sur ce stand. Scénariste prolifique de Soleil, bah, tout ça c'est la bande d'il y a 30 ans des Aixois. Et avec Paul on s'est très vite bien entendu à ce moment-là et on a décidé de monter des projets ensemble.
Alors justement ton univers est vraiment très différent, c'est vraiment un éventail très très important. Est-ce que c'est différent, c'est difficile justement de se fixer et d'avoir des compétences assez élargies justement?
J'ai jamais eu l'impression de faire un travail difficile. De toute façon, j'ai tellement d'histoires à raconter, tellement d'histoires différentes, de mondes, d'univers, d'envies, de choses en tête, que ce qui est difficile, c'est d'aller me coucher le soir parce que j'ai envie de rester devant mon Macintosh et d'écrire.
Alors justement, tu fais de la BD, mais tu es aussi rédacteur en chef de L'Enfeus Mag. Est-ce que c'est difficile de garder toujours ces deux parties ?
Non, il n'y a rien de difficile, comme je le dis. S'il y avait des choses difficiles, je ne les ferais pas, je suis un flemmard. Pour moi, monter un journal, c'était très facile parce que justement, je sortais d'une école de journalisme, je savais ce que c'était qu'un journal, j'avais l'expérience de la presse. Donc je savais que ça représentait beaucoup moins de travail que ce que les gens imaginent de l'extérieur. Et les 50 premiers numéros de L'Enfeus Mag, on les a fait à deux avec Dominique Latil. On a fait ça comme un fanzine, sauf que c'était un journal professionnel. Et en même temps, j'écris mes scénarios. Bon, c'est vrai que j'ai une petite tendance à travailler 14 heures par jour, y compris les week-ends. Mais tout ça se fait très naturellement. Je passe de l'un à l'autre en permanence au fil de la journée.
Alors justement, ton univers, on parle de séries fantasy, on parle des commons, on parle de magie, électricité. Comment tu arrives à te fixer sur un projet en particulier ?
Il faut bien connaître le monde dans lequel on raconte une histoire. Alors quand je fais Léo Loden, qui est un polar à Marseille, je connais bien Marseille, c'est une ville que j'ai pas mal fréquentée, donc je sais de quoi je parle. De la même manière en fantasy, quand je vais parler du monde de Troie avec L'Enfeus, c'est un monde que je connais bien, j'ai fait des encyclopédies dessus, j'ai fait des cartes, je fixe mon univers. Et j'ai besoin de bien connaître mon univers, mon background, d'avoir toute la doc en tête, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et j'ai besoin de bien connaître mes personnages et la psychologie de chaque personnage, puisque c'est eux qui vont me guider au travers d'une histoire.
Alors justement, dans la dernière nouveauté qui va sortir justement dans quelques temps, il y a une fourmi et il y a le personnage qui s'appelle Yuri. Est-ce que tu peux un peu plus nous en développer ?
Donc l'héroïne s'appelle Fourmi Gratule, qui est une jeune fille, une étudiante en art, qui prend un avion pour aller voir à New York une exposition sur le Caravage, au Met. Et finalement, alors qu'elle est en plein milieu de la traversée, elle se retrouve abordée par une sorte de gros écureuil géant habillé comme un bavarois du XVIIe siècle et qui lui demande si elle accepte un héritage. Personne d'autre ne semble voir la vestiole dans l'avion. Et à ce moment-là, elle finit par l'accepter. Il y a une espèce d'orage, on comprend que l'avion va se crasher. De terreur, elle prend la main de son voisin et hop, d'un coup, elle se réveille. Elle est dans le Dragon qui fait la ligne régulière Paris-New York et qui va atterrir à JFK. Et à ce moment-là, Yuri et Fourmille vont découvrir tous les deux, un New York de fantasy, un New York décalé, complètement médiéval, fantasy. Et l'intérêt pour moi de cette série, c'est de montrer, de parodier notre monde dans une version fantasy, dans laquelle l'électricité n'existe pas, dans laquelle tout pourtant est là. Il y a le métro de New York, mais c'est pas le même. Il y a les taxis new-yorkais, il y a le Chrysler Building est là, le pont de Brooklyn. Mais tout ça, c'est de la fantaisie complètement.
Alors justement, aujourd'hui, à l'occasion du Festival de la BD Angoulême, on découvre qu'il y a de plus en plus d'applications de BD qui vont se transformer en e-book. Quel est toi ton avis justement sur ce passage à cette nouvelle technologie? Est-ce qu'il y a dans le domaine de la BD une place justement pour cette nouvelle technologie et comment arriver à trouver un modèle économique pour les éditeurs et surtout les auteurs?
Je crois que les choses sont vraiment en train de se mettre en place clairement maintenant. Là, à l'occasion de cet Angoulême, Delcourt a annoncé le deal avec Comixology, qui est le numéro 1 aux États-Unis, qui a fait ses preuves, qui a un système qui marche. J'ai testé avec eux il y a 2 jours les adaptations de L'Enfeuse. J'ai trouvé ça très très bien fait. Le modèle économique, finalement, on revient sur un modèle très classique, puisque à la place du libraire, on a des gens qui s'appellent Amazon ou Apple. Achète, reste présent dans la boucle, s'occupe des providers, s'occupe de la chasse aux pirates et de l'interface. On a un éditeur, on a des auteurs et le livre papier existera toujours, bien entendu. Mais je pense que la partie la plus populaire et ce qui va toucher les ados, ça risque de beaucoup passer par le numérique. D'où l'importance, si on parle de modèle économique, de vendre les bouquins leur vrai prix. C'est-à-dire que là, on va être sur un bouquin à 9,90€ au lieu de 13€, mais on est quand même sur un livre où j'entends déjà les réactions où on va dire c'est cher pour du numérique, pour du dématérialisé. Ce qu'on oublie complètement, c'est que le papier, en fait, il ne coûte rien. Imprimer un bouquin, ça coûte moins d'1€. Et les gens ne se rendent pas compte que quand ils achètent un bouquin 13€, il y a moins d'1€ d'imprimerie. Donc c'est que dalle. Ce qui coûte dans un bouquin, c'est d'abord la création, puisqu'on va payer 2 auteurs pendant 1 an pour créer un bouquin. Ensuite, l'éditeur qui, lui, fait un travail d'accompagnement de la création et en même temps de financement de ses auteurs. Puis les diffuseurs. Puis voilà, tout ça, c'est le coût d'un livre. Donc le coût du livre, il est le même pour un livre numérique.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous comme auteur, vous arrivez à vous retrouver parmi ce panel qui est extraordinaire du nombre de BD qui sortent tous les jours ?
Je dois dire que je lis plus autant de BD qu'à une époque et je suis plus aussi attentif à tout ce qui sort qu'à une époque. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que quand il y a un bouquin de qualité, il finit toujours par me tomber entre les mains parce qu'il y a toujours un copain qui l'a lu et on s'aperçoit qu'il sort peut-être 5000 BD par an, mais on entend parler autour de nous et on finit par lire 50 BD sur les 5000, mais que tout le monde parle des 50 mêmes. Et que finalement, si on ne parle pas des autres, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas vraiment attiré l'attention générale.
Alors, est-ce que la recette miracle pour bien marcher en BD, c'est toujours un bon auteur, une bonne maison d'éditeur ?
Non. La recette, c'est d'avoir quelque chose à dire, une bonne histoire, d'abord et avant tout. Après, bien marcher, on peut avoir une bonne histoire et ne pas bien marcher. Bien marcher, les éditeurs cherchent toujours la recette, justement. Tu emploies le mot recette, moi c'est un mot qui m'horripile parce qu'il n'y en a pas de recette. Qu'est-ce qui va correspondre à un moment donné à l'envie de lire d'un grand nombre de gens? On n'en sait rien. Les éditeurs passent leur temps à faire semblant, à faire croire aux gens qui savent ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas les écouter, il faut que chacun fasse ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il a envie, et puis essayer d'avoir la chance de correspondre à l'envie de lire de gens qui sont en face. Mais rien n'est jamais prédictible.
Alors maintenant, vous avez, je pense, comme tout auteur, des projets dans les cartons, et si on peut en savoir quelques-uns ?
Pour le moment, non. Le gros projet, c'était Echo, voilà, que je porte depuis 2 ans. Là, je vais surtout me concentrer, comme je fais des séries avec des suites, donc j'ai beaucoup de suites à mettre en route et je n'ai pas de nouveaux grands projets à part Echo. Mais Echo, j'y mets énormément d'énergie. Pour moi, j'ai pas envie de lancer 50 millions de projets différents tout le temps, n'importe comment. Quand je lance un nouveau projet, je veux vraiment y consacrer le meilleur.